Chapitre 17. Le testament de Joe. Tout en parcourant les rues, où les flèches des églises se découpent nettement sur le ciel, M. Woodcourt réfléchit à ce qu'il va faire de Joe. N'est-il pas étrange, se dit-il, qu'au centre du monde civilisé, on soit plus embarrassé d'une créature humaine que d'un chien égaré? Mais le fait n'en existe pas moins, si étrange qu'il puisse être, et le docteur ne voit pas comment il pourra y remédier. Joe, fidèle à sa promesse, rampe le long des maisons, de l'autre côté de la rue, tournant la tête de temps en temps vers le gentleman, qui se demande toujours où il pourra le conduire. Une laiterie près de laquelle il passe rappelle d'abord au docteur ce qu'il y a de plus pressé. Il fait un signe au pauvre Joe, qui vient à lui clopin-clopant, tournant les os de sa main droite dans le creux de sa main gauche, où il pétrit la crasse avec le pilon de la nature, et qui, l'instant d'après, est en face d'un déjeuner qui doit lui paraître excellent. Mais le pauvre garçon, après avoir porté la tasse de café à ses lèvres, la repose sur la table en regardant autour de lui comme un animal effarouché. Il est si malade et si pauvre que la faim elle-même l'abandonne. « Je croyais, disait-il, que j'avais besoin de manger. Il y a si longtemps, mais j'ai pas le cœur d'avaler, ça ne passe pas. » Et, tout frissonnant, il regarde son pain avec des yeux surpris. Le docteur lui tâte le pouls et met la main sur sa poitrine. « Respirez fortement, dit-il. »« Ah, que c'est lourd, répond Joe. Aussi lourd qu'une charrette. » Il aurait pu dire que cela faisait le même bruit, mais il se contente d'ajouter « Faut que je circule, monsieur. » Allen cherche un pharmacien autour de lui et n'en trouve pas dans le voisinage. Une taverne qu'il aperçoit fait tout aussi bien son affaire, si ce n'est mieux. Il en rapporte un peu de vin, dont il fait boire une ou deux gorgées au pauvre Joe. « Nous en reprendrons tout à l'heure, dit-il. En attendant, reposez-vous un peu. Nous circulerons ensuite. » Joe reste dans la laiterie pendant que M. Woodcourt se promène au soleil et jette de temps en temps un coup d'œil sur lui pour voir ce qu'il fait et comment il se trouve. Il est mieux, sa figure est moins sombre. Il reprend son pain et commence à y mordre. Allen revient auprès de lui. La conversation s'engage, et le docteur écoute avec étonnement l'histoire de la belle dame au voile et de ce qui en résulta pour le malheureux Joe. Celui-ci, qui mange tout en parlant, finit son pain en même temps que son histoire. Le docteur, ayant pensé à Miss Flight pour lui demander conseil relativement à son pauvre compagnon, dit à Joe de le suivre et se dirige vers la petite cour où demeurait sa patiente. Mais tout est bien changé dans la maison du vieux Crook. Les fenêtres sont fermées, la vieille fille n'y est plus. Une femme aux traits durs, couverte de poussière, et dont l'âge est un problème, l'intéressante Judy, en un mot, lui répond aigrement que Miss Flight et ses oiseaux demeurent chez Mrs. Blinder, qui reste dans Bell Yard. M. Woodcourt se rend immédiatement à l'endroit indiqué, où Miss Flight, toujours matinale afin d'arriver la première à l'audience, descend 4 à 4, les bras ouverts et les yeux baignés de larmes, en s'écriant « Mon cher docteur, le plus généreux, le plus distingué, le plus brave de tous les officiers !» Allen, toujours plein de douceur avec elle, écoute avec patience l'expression du ravissement de la vieille fille et attend, pour lui dire le motif de sa visite, qu'elle ait épuisé tous les transports d'enthousiasme que lui dicte son cœur. « Où pourrais-je le loger ? » dit-il en montrant Joe, qui frissonne sous la porte. « J'ai pensé que vous, qui savez tant de choses, et qui avez un si grand sens, vous me donneriez un bon conseil. » Miss Flight, enchantée de cet éloge, réfléchit longtemps avant de rien trouver. Tout est loué chez Mrs. Blinder. C'est elle qui occupe la chambre du pauvre Gridley. « Gridley !» s'écrie-t-elle tout à coup. « Gridley ! Mais certainement, cher docteur, le général George va nous tirer d'affaire. » En courant aussitôt chercher son pauvre petit châle, son vieux chapeau et son sac de documents, elle vient retrouver le docteur à qui elle raconte chemin faisant que le général George, qu'elle voit quelquefois, connaît sa chère Fitz-Jarndyce et lui porte un grand intérêt. D'où Allen conclut que le général est un excellent homme qui ne peut manquer de leur être utile. En entrant dans la galerie de tir, qui heureusement n'est pas loin, M. Woodcourt augure à merveille de ce qu'il voit, et surtout de M. George, qui fume sa pipe en se promenant de long en large, et dont les muscles vigoureux se devinent sous la simple toile qui les couvre. « Votre serviteur, monsieur, dit-il en saluant militairement après avoir écouté avec un sourire la présentation pompeuse que Miss Flight vient de lui faire. « Un officier de marine, » ajoute le maître d'armes. « Je suis fier de la méprise, » reprend Allen, « mais je n'appartiens à la marine qu'en qualité de chirurgien. »« Vraiment, monsieur, j'aurais pensé que vous portiez l'habit bleu. » Monsieur Woodcourt espère que c'est un motif pour que monsieur George lui pardonne sa visite importune. Et veuille bien surtout ne pas éteindre sa pipe, ainsi qu'il en avait d'abord manifesté l'intention. « Vous êtes bien bon, monsieur, » répond le sergent, « et comme je sais que le tabac ne déplaît pas à Miss Flight, je vais donc, monsieur, puisque vous le permettez. » Monsieur George complète sa phrase en portant sa pipe à ses lèvres et en continuant de fumer, tandis que monsieur Woodcourt lui raconte l'histoire du pauvre Joe. « C'est lui ?» demande le maître d'armes en regardant la porte d'entrée, où Joe examine, bouche béante, les grandes lettres peintes sur le mur, qui ne signifient rien du tout pour lui. « Oui, monsieur, » répond Allen, « et je suis fort embarrassé. Je ne veux pas le conduire à l'hôpital, car il n'y resterait pas 2 heures, en supposant qu'on voulût bien l'y recevoir. La même objection s'applique aux maisons de refuge, en admettant que pour l'y faire entrer, juste la patience de supporter les prétextes et les mensonges qu'on emploierait pour me renvoyer de Caïphe à Pilate, système qui ne me va pas du tout. À personne, monsieur, dit le maître d'armes. Je suis sûr qu'il ne resterait dans aucun endroit public, poursuit monsieur Woodcourt, en raison de la terreur que lui inspire un certain individu qui lui a ordonné de quitter Londres, et à qui, dans son ignorance, il suppose la faculté d'être partout et de savoir tout ce qui se passe. Le nom de cette personne est-il un secret ? Demande monsieur George. C'en est un pour ce malheureux, qui en a peur, mais c'est tout simplement M. Bucket. De la police, monsieur ? Précisément. Je le connais, répond le sergent, après avoir jeté en l'air un nuage épais de fumée. Et le pauvre gars est assez près de la vérité en disant que c'est un drôle particulier. M. George reprend sa pipe d'une manière significative et regarde Miss Flight en silence. Je voudrais aussi, continue le docteur, faire savoir à Miss Summerson et à M. Jarndyce que l'on a retrouvé ce malheureux, afin qu'ils puissent lui parler si toutefois ils le désirent. Et c'est pour cela qu'il faudrait, au moins quant à présent, le placer dans une maison décente. Mais ce pauvre Joe n'a jamais eu, comme vous voyez, beaucoup de rapports avec les honnêtes gens, et c'est là ce qui m'embarrasse. Connaissez-vous quelqu'un dans le voisinage qui consentirait à le recevoir? Je paierai d'avance son loyer. » Tandis qu'il fait cette question au maître d'armes, le docteur remarque un petit homme au visage barbouillé de poudre qui est venu se placer à côté du sergent. M. Georges tire plusieurs bouffées de sa pipe en jetant un regard de côté au petit homme qui lui répond par un clignement d'yeux affirmatif. « Monsieur, dit le maître d'armes, je me ferais volontiers casser la tête si cela pouvait être agréable à Miss Summerson. Pour moi, c'est un privilège et un honneur que de lui rendre un service, quelque mince qu'il puisse être, et je m'estime fort heureux de pouvoir lui offrir l'asile que vous cherchez. Nous sommes de vrais bohémiens, Phil et moi. Vous voyez notre demeure. Choisissez la place qui vous conviendra le mieux pour y installer votre protégé. Vous n'aurez rien à payer, du moins pour le logement. Quant aux rations, il nous serait impossible de les fournir. Nos affaires ne sont pas florissantes. On peut, d'un moment à l'autre, nous exproprier et nous chasser d'ici. Mais en attendant, monsieur, telle qu'elle est, disposez de cette maison qui est entièrement à votre service. Vous me garantissez toutefois, en qualité de docteur, qu'il n'y a rien de contagieux dans la maladie de ce pauvre garçon. Allen affirme qu'il n'y a rien à craindre à cet égard. C'est que, voyez-vous, reprend M. George, nous en avons déjà eu assez comme ça. M. Woodcourt partage les regrets du maître d'armes, et tout en lui assurant de nouveau qu'il n'y a rien de contagieux dans l'affection dont il s'agit, il croit néanmoins devoir lui dire qu'elle est d'une extrême gravité. « Pensez-vous qu'il puisse en mourir ?»« J'en ai peur, » répond M. Woodcourt. « Raison de plus pour ne pas le laisser dehors. Va le chercher, Phil, et amène-le ici. » Le petit homme exécute immédiatement l'ordre du maître d'armes, et Joe entre dans la galerie. « Pauvre Joe !» Il ne vient pas de Tokaupo, ni de Barrio Bulaga. Ce n'est pas l'un des Indiens favoris de Mrs. Pardegle ou des agneaux de Mrs. Jellyby. Ce n'est point un sauvage exotique dont les traits sont adoucis par la distance et qui intéresse par son cachet étranger. C'est tout simplement un article de fabrique anglaise, affreux et sale. révoltant à la fois tous les sens, informe de corps, païen dans l'âme, tout chrétien qu'il est de naissance. Un être vulgaire qu'on rencontre dans la rue voisine, couvert de la fange natale, dévoré par des poux indigènes. Ses haillons, la crasse qui le défigure, les ulcères qui le rongent sont des produits anglais. Cette ignorance qui l'a fait tomber au-dessous de la brute a germé et grandi sur le sol britannique, et voilà ce qui fait, pauvre Joe, que tu n'intéresses personne. Il entre lentement dans la salle, et, ramassé sur lui-même, il regarde autour de lui sans oser lever les yeux. Il sent qu'il inspire un dégoût involontaire et s'éloigne instinctivement des autres. Qu'a-t-il de commun avec eux? Il n'est ni homme ni bête. Où le classer? Il n'y a point de catégorie pour lui dans toute la création. « Joe, lui dit M. Woodcourt, regardez M. George, un bon ami pour vous, qui veut bien vous loger. » Il promène son regard sur le plancher, lève les yeux qu'il baisse immédiatement et fait un geste de la main qui est probablement sa manière de saluer. Enfin, après avoir changé plusieurs fois le pied sur lequel il se pose, « Ben obligé, dit-il entre ses dents. Vous n'avez rien à craindre. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'être obéissant et de reprendre les forces. Ne manquez pas surtout de bien dire la vérité quand on vous questionnera. Que je sois pendu si je la dis pas. J'ai jamais rien fait d'abord que tout ce que je vous ai dit, et jamais auparavant j'avais été en peine, excepté que j'ai rien su faire, et que j'avais trop grand faim. Je le crois, Joe, mais écoutez Monsieur George qui voudrait vous parler. Je voulais seulement lui montrer l'endroit où il couchera, dit celui-ci en conduisant Joe à l'autre bout de la salle et en ouvrant la porte du petit cabinet. Il y a un matelas, comme vous voyez, continue le maître d'armes. Vous pourrez être tranquille et rester là tant que M. Woodcourt le jugera convenable. N'ayez pas peur des coups de pistolet que vous entendrez. C'est la cible qu'on vise et non pas vous, mon garçon. Mais il y a autre chose que je voudrais vous soumettre, dit M. George en s'adressant au docteur. Phil, viens ici. Voilà un homme qui, dans son enfance, a été trouvé dans un ruisseau. Il doit conséquemment s'intéresser à ce malheureux, n'est-ce pas, Phil?
Assurément, gouverneur.
Voilà donc ce que je propose, dit M. George avec une sorte d'assurance martiale, comme s'il avait donné son opinion devant un conseil de guerre. Je propose que Phil emmène ce jeune homme au bain et lui achète divers objets indispensables.
J'allais précisément vous le demander, répond le docteur en prenant sa bourse.
Phil Squad et Joe vont immédiatement accomplir cette œuvre nécessaire, et Miss Flight, enchantée du résultat de sa démarche, demande la permission de se rendre à la cour, dans la crainte que son ami le grand chancelier ne soit inquiet de ne pas la voir, ou qu'il ne vienne par hasard à prononcer en son absence le jugement qu'elle espère. Vous comprenez, général, et vous, mon cher docteur, que ce serait ridiculement malheureux après tant d'années d'attente. M. Woodcourt sort avec elle pour aller chercher quelques cordiaux qu'il fait préparer devant lui et revient bientôt à la galerie où il retrouve M. George se promenant de long en large.
« Il m'a semblé comprendre, lui dit le maître d'armes, que vous connaissiez beaucoup Miss Summerson. »«
Oui, monsieur. Vous êtes peut-être son parent ?»«
Non. Pardonnez-moi, monsieur, mon indiscrétion apparente, mais j'ai pensé que l'intérêt que vous portez à cet infortuné provenait peut-être de la pitié que Miss Summerson lui avait témoignée. C'est du reste le sentiment que j'éprouve. »«
Le mien aussi, monsieur George. » L'ancien militaire jette un regard de côté sur le visage bronzé du docteur, le toise rapidement et paraît satisfait de son examen. Pendant votre absence, dit-il, je pensais à l'histoire de ce malheureux enfant et je suis persuadé que je connais la maison où l'a conduit Bucket. Il n'a pas pu vous dire le nom de l'individu qui l'avait fait venir, mais ce ne peut être que M. Tulkinghorn. Je pourrais dire que j'en suis sûr.
Tulkinghorn, répète M. Woodcourt en l'interrogeant du regard.
Oui, monsieur, je connais cet homme. Et je sais qu'il était en rapport avec Bucket au sujet d'un malheureux qui lui avait dit des injures que sans doute il n'avait pas volées.
Quelle homme est-ce?
Au physique? Je le connais de vue, c'est au moral que je veux dire.
Eh bien, monsieur, je vais vous le dire franchement, dit le maître d'armes à qui la colère fait monter le sang au visage. C'est un homme de la pire espèce, un être à part, aussi insensible qu'une vieille carabine, un bourreau sans entrailles. Par Saint-Georges, il m'a causé plus d'inquiétude, de peine, de regret que tous les autres ensemble.
« Je regrette, dit Allen, d'avoir posé le doigt sur une plaie si douloureuse.
« Ce n'est pas votre faute, monsieur. mais vous allez en juger. C'est lui qui peut m'exproprier d'un moment à l'autre. Le misérable s'en est procuré le moyen, et il en use pour me faire lanterner perpétuellement. Impossible de le voir et de s'expliquer. Ai-je un paiement à lui faire, une chose à lui demander ou à lui dire, il me passe à l'ordre d'un certain Melchisédek ou d'un autre qui ne manque pas de me renvoyer à lui. Et je ne fais plus maintenant qu'aller et venir de ma porte à la sienne, où il me tient le bec dans l'eau, comme si j'étais du bois dont on l'a fait lui-même. Et pourquoi, je vous le demande? Pour le plaisir de m'irriter, de me torturer. Mais bah, pardonnez-moi, monsieur Woodcourt, c'est un vieillard, et tout ce que je puis dire, c'est qu'il est bien heureux que je n'ai pas eu la chance de le rencontrer sur quelque champ de bataille, monsieur, car de l'humeur où il me met toujours, il y a longtemps que je l'aurais descendu. Monsieur Georges est dans un tel état d'excitation qu'il s'essuie la figure avec sa manche et que tout en sifflant le « God save the Queen » pour dissiper sa mauvaise humeur, il ne parvient pas à réprimer certains mouvements de la tête et de la poitrine, sans parler de son col de chemise qu'il ouvre de temps en temps comme s'il craignait de suffoquer. Le docteur ne doute plus le moins du monde de ce qui serait arrivé si M. Georges et M. Tulkinghorn s'étaient rencontrés sur quelque champ de bataille. Phil vient de ramener Joe et le conduit à son matelas où il l'aide à s'étendre. Il reçoit les instructions du docteur qui, après avoir administré lui-même quelques gouttes d'un élixir au malade, retourne chez lui, s'habille à la hâte, déjeune et va trouver M. Jarndyce pour lui faire part de sa découverte. Celui-ci l'accompagne immédiatement chez M. Georges en lui disant qu'il y a de graves motifs pour que cette aventure, à laquelle il paraît prendre un sérieux intérêt, soit tenue secrète autant que possible. Joe répète à M. Jarndyce tout ce qu'il a dit au docteur, sans varier d'une syllabe. Seulement la charrette qu'il trouvait déjà lourde ce matin sur sa poitrine est plus pesante encore et fait un bruit plus caverneux que dans la matinée. « Laissez-moi rester là, ne me chassez pas, » balbutie le pauvre Joe. « Qu'est-ce qu'il voudrait bien, en passant près de l'endroit où ce que j'avais coutume de balayer, dire à M. Sangsbay que Joe, qu'il a connu autrefois, circule, circule, comme on lui avait commandé, et qu'il lui est bien reconnaissant, et voudrait l'être encore plus si c'était possible à un misérable comme lui. » Joe parle si souvent du papetier qu'après avoir consulté M. Jarndyce, le docteur se décide à aller trouver M. Snagsby. Au moment où il arrive chez le papetier, celui-ci est derrière son comptoir. Il a son habit gris, ses manches de lustrine, et collationne plusieurs contrats sur parchemin que l'expéditionnaire vient justement de lui rapporter. Il pose sa plume et salue l'étranger de la toux préparatoire dont il fait en général précéder ses transactions commerciales. « Vous ne me reconnaissez pas, Monsieur Snagsby ?» lui demande Monsieur Woodcourt. Le cœur du papetier bat violemment, car il est toujours en proie aux mêmes appréhensions. Et c'est tout au plus, il a la force de répondre « Je ne puis pas dire que, et à parler sans détour, je ne me rappelle pas vous avoir jamais vu. » « Deux fois, monsieur, la première au lit de mort d'un malheureux, et la seconde, « Ah, pardon, monsieur, je me souviens parfaitement. » Et le pauvre homme conserve encore assez de présence d'esprit pour conduire le docteur dans l'arrière-boutique dont il ferme la porte. « Êtes-vous marié, monsieur ?» lui dit-il. « Pas encore. Quoique célibataire, seriez-vous assez bon, » continue le papetier d'un air mélancolique, « pour parler à voix basse. Car je parierais 500 livres que ma petite femme nous écoute. Je n'ai jamais eu de secret pour elle, monsieur. » Et je n'ai pas sur la conscience d'avoir jusqu'ici rien caché à ma petite femme. Pour tout dire, je ne l'aurais pas osé. Et malgré cela, je me trouve mêlé à tant de mystères que la vie m'est devenue un fardeau. M. Woodcourt exprime tous les regrets que lui inspire la position du papetier et lui demande s'il se rappelle un balayeur nommé Joe. « Après moi, monsieur, » répond-il avec abattement, « c'est la personne contre laquelle ma petite femme est le plus montée. « Pourquoi cela ? Pourquoi ? » s'écrie-t-il en saisissant la touffe de cheveux qui est derrière sa tête chauve. « Je n'en sais rien moi-même. Mais vous êtes célibataire, monsieur. Sans cela, vous ne feriez pas une pareille question à un homme marié. » Monsieur Snagsby, après avoir toussé tristement, se résigne enfin à écouter le docteur. « Encore ? » dit-il en pâlissant. « Mon Dieu, où en suis-je ? Il y a une personne qui me recommande instamment de ne parler de Joe à âme qui vive, pas même à ma petite femme. Et voilà, monsieur, que vous venez m'entretenir de ce même Joe, en me recommandant également le secret le plus absolu, surtout à l'égard de la personne en question, et sans que je sache pourquoi. Mais c'est à en devenir fou, monsieur. Néanmoins, comme les choses tournent mieux qu'il ne s'y attendait, et qu'après tout il a bon cœur, il est touché de la position du pauvre Joe, et promet, si toutefois sa femme n'y met pas obstacle, de passer chez M. Georges le soir même, aussitôt qu'il pourra s'échapper. Joe éprouve une joie profonde en revoyant son ancien ami. À peine les a-t-on laissés seuls que le pauvre enfant essaye de dire au papetier combien il le trouve bon d'avoir venu si loin pour un malheureux comme lui. Et le brave homme, touché du spectacle qu'il a sous les yeux, pose sur la table son petit écu, panacée infaillible, qui, dans son opinion, doit guérir tous les maux. « Comment vous trouvez-vous, mon pauvre Joe ?» lui demande le papetier en toussant de compassion. « Je suis dans une fameuse passe, monsieur Sangsby. J'ai tout ce qu'il me faut. Si vous saviez comme je suis ben. Ah, monsieur Sangsby, que j'ai de chagrin de ce que j'ai fait. Mais pour sûr, je n'y allais pas pour ça. » Le papetier pose sur la table un autre petit écu et lui demande ce qu'il a fait pour avoir tant de chagrin. « Monsieur Sangsby, je suis été comme ça chez une lady, qui n'était pas l'autre que vous savez, mais une lady tout de même, et j'y ai donné mon mal. Ils m'en ont seulement rien dit, cause qu'ils sont si bons et moi si malheureux. Elle est venue me voir hier, et qu'elle a dit comme ça, mon pauvre Joe, qu'elle a dit, nous vous croyons perdus. Et qu'elle s'est assise près de mon lit en me souriant, et pas une parole, pas un regard pour me reprocher ce que j'avais fait. Et qu'alors moi, je m'a tourné contre le mur, monsieur Sangsby. Et monsieur Jarndyce s'est retourné comme moi, et puis monsieur Woodcote a venu pour me donner quelque chose qui me soulage, comme il fait jour et nuit. Et quand il s'est penché en me parlant pour faire le brave, j'ai bien vu ses larmes qui tombaient sur mon lit, monsieur Sangsby. Le papetier dépose un troisième petit écu à côté des deux autres, dans l'espoir que la répétition de ce remède infaillible soulagera son propre cœur. « Alors j'ai pensé comme ça, monsieur Sangsby, continue Joe, que vous saviez peut-être écrire ben gros. »« Sans doute, mon pauvre ami. »« Mais là, ben gros, répète le pauvre enfant avec chaleur. »« Tout ce qu'il y a de plus gros, mon garçon. » Joe se met à rire. « C'est que, voyez-vous, monsieur Sangsby, voilà ce que je veux vous demander. Quand je vois avoir fini de circuler, et que je serai où ce qu'on ne peut pas aller plus loin, vous aurez la bonté, n'est-ce pas, d'écrire ben gros, si gros que tout le monde puisse le voir, comme quoi j'ai eu tant de chagrin de l'avoir fait, et que j'avais pas été chez elle avec l'idée de lui faire du mal, et que je le savais pas, et vous mettrez que j'ai vu M. Woodcote en pleurer, et que j'espère qu'il voudrait bien me pardonner. Et s'il écrit ou que vous direz tout ça est ben gros, et que tout le monde puisse le voir, je suis sûr qu'il me pardonnera. Je le ferai, Joe, et soyez tranquille, j'écrirai le plus gros possible. Ben obligé, M. Sangsby, c'est une grande bonté de votre part. Et ça me fait encore plus ben aise que j'étais tout à l'heure. » Monsieur Sangsby, dont la toux s'arrête dans le gosier, glisse un quatrième petit écu sur la table et dit à Joe qu'il reviendra. Mais Joe et lui ne se verront plus sur la terre, car le pauvre vagabond approche du terme de son voyage. Phil, qui travaille dans un coin tout en gardant son malade, tourne souvent la tête pour lui dire quelques paroles encourageantes. Monsieur George s'approche fréquemment de la porte du cabinet, qu'il remplit de ses formes athlétiques, et semble ranimer le pauvre Joe en lui versant un peu de sa vigueur. M. Jarndyce vient souvent, et M. Woodcourt est presque toujours là, songeant tous les deux à la manière étrange dont le destin a mêlé ce rebut de l'humanité à des existences si opposées à la sienne. Joe a dormi toute la journée. Peut-être n'est-ce que de la torpeur. Alan, qui est auprès de lui, regarde sa figure décharnée. M. George est debout à l'entrée du cabinet, et Phil a suspendu son travail. M. Woodcourt, assis au bord du lit, comme il l'était jadis sur le grabat de l'expéditionnaire, jette un regard au sergent et fait signe à l'ouvrier d'emporter sa petite table. Quand celui-ci reprendra sa besogne, il y aura une tache de rouille au fer de son marteau. « Qu'est-ce que c'est, mon pauvre Joe ? « N'ayez pas peur, lui dit Alan avec bonté. « Je croyais, répond Joe tout effrayé, que j'étais retourné dans Tom All Alone's. « Il n'y a que vous ici, monsieur Woodcott ?»« Oui, Joe. « Et je suis pas dans Tom All Alone's, monsieur Woodcott. »« Non, Joe. »« Ah, merci. » Je vous suis bien reconnaissant. » Il ferme les yeux, et M. Woodcourt, se penchant à son oreille, « Joe, lui dit-il, savez-vous une prière ?»«
Moi, c'est rien du tout, monsieur. »«
Une bien courte. »«
Non, monsieur, rien du tout. »
J'ai été une fois chez M. Sangsby avec M. Chadband, qui en faisait une de prière. Mais il se parlait comme à lui-même, pas à moi, et j'ai rien compris. Il en a venu aussi dans Tom All Alone's, des autres messieurs qui disaient les prières, mais c'était tout de même. Ils criaient contre le monde et ne nous parlaient pas à nous autres. Joe, dont la parole devient de plus en plus difficile à comprendre, épuisé par l'effort qu'il vient de faire pour répondre à M. Woodcourt, retombe dans sa torpeur et se réveille quelques instants après en cherchant à sortir de son lit. « Qu'avez-vous encore, Joe ?»«
Il est temps que je parte, monsieur, pour aller au cimetière. »«
À quel cimetière, Joe ?»«
Restez tranquille et recouchez-vous. » »«
À l'indre où ce qu'ils l'ont porté, lui qui était si bon pour moi. »«
Faut que je parte, monsieur. »«
Il est temps que j'aille là-bas qu'on m'enterre. »« Je demanderai qu'on me mette à côté de lui. » »« Il me disait comme ça, je suis aussi pauvre que toi aujourd'hui, » qu'il me disait. « Je vais lui dire à mon tour qu'à présent, je suis aussi pauvre que lui, et que j'ai venu au cimetière pour être couché auprès de lui. »
« Pas encore, Joe, pas encore.
Peut-être bien qu'il ne le ferait pas si j'y allais tout seul. Mais vous viendrez avec moi, et vous me ferez mettre auprès de lui, n'est-ce pas, monsieur Woodcourt ?
Je vous le promets, Joe. »
« Merci, monsieur, merci bien. Faudra qu'ils aillent chercher la clé de la porte avant de me faire entrer. Parce qu'elle est toujours fermée. N'y a une marche devant. » Que j'avais coutume de balayer.
« Comme il fait noir, monsieur Woodcourt.
Y a-t-il de la lumière qui va venir ?»«
Oui, Joe, elle approche. »«
La route est bien rude. »« Et voilà que j'arrive au bout. »«
Joe, mon pauvre ami. »«
Je vous entends, monsieur Woodcourt, mais je vous vois pas. »« Je suis à tâtons. Laissez-moi prendre votre main. »«
Joe, voulez-vous répéter ce que je vais dire ?»«
Oui, monsieur. » Car c'est bon pour sûr. Notre Père. Notre Père. Oui, c'est bon, monsieur Woodcourt. Qui êtes aux cieux. Aux cieux, c'est-il la lumière qui vient?
Elle est tout près, Joe.
Que votre nom soit sanctifié.
Sanctifié.
La lumière vient dissiper enfin les ténèbres de sa route. Il est mort. Entendez-vous, Majesté, il est mort. « Milords et gentlemen, révérends de toutes les églises, il est mort. Hommes et femmes à qui le ciel a mis la compassion au cœur, il est mort. Et chaque jour il en meurt ainsi, combien autour de nous ?»